France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre. Cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler. Et aujourd'hui, notre invité, cosmologiste, a choisi d'évoquer un texte sur l'éternité des astres. Rien d'étonnant pour un spécialiste de l'univers. Plus étonnant quand on découvre l'auteur de ce texte, Auguste Blanqui, plus connu pour son engagement révolutionnaire socialiste au XIXe siècle que pour sa pensée scientifique.
L'enfermé, c'est ainsi que l'on désignait Auguste Blanqui dans les dernières années du Second Empire et les premières années de la Troisième République. Quelques chiffres le justifient. 33 ans, 7 mois et demi de prison, à quoi il faut ajouter 6 ans d'exil ou de surveillance policière. 2 ans, 8 mois, 24 jours de résidence forcée et aussi, ce que le refus de l'amnistie explique, 10 mois, 27 jours de prison volontaire. Au total, 43 ans, 8 mois, soit beaucoup plus que la moitié des 75 années que vécut Blanqui, soit la presque totalité des 50 années de sa vie active, moins de 7 ans d'une existence libre sur 50 années. Pendant un demi-siècle, par la parole et par l'écrit, Auguste Blanqui ne cessera d'adresser un appel au prolétariat, soumis aux crises économiques qu'atteignent directement la misère et le chômage. Et cet appel sera toujours un appel à l'insurrection.
Bonjour Jean-Philippe Huzon.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, vous êtes cosmologiste, j'adore ce terme.
C'est élégant.
Oui, c'est très élégant, ça en impose. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous avez écrit, j'ai noté plus de 150 articles, plusieurs livres, je cite celui-ci, Big Bang, comprendre l'univers depuis ici et maintenant, et récemment une histoire populaire de l'univers, tous les deux parus chez Flammarion. Alors je l'ai dit, on l'a entendu dans cet archive de 1968, Blanqui est connu pour sa vie d'engagement, vie franchement pas génial quand même, l'enfermé.
Vie difficile.
Connu donc pour son engagement, mais plus que pour son engagement dans la cosmologie. Et pourtant, il a écrit ce texte qui s'appelle « L'éternité par les astres ». Pourquoi ce texte? Pourquoi Auguste Blanqui? Pourquoi a-t-il écrit là-dessus? Tant de questions.
Beaucoup de questions. Alors déjà, pour resituer les choses, moi c'est un texte que je ne connaissais pas, on ne m'en avait jamais parlé, que j'ai découvert un peu par hasard à l'époque où j'étais étudiant en thèse à l'Observatoire de Meudon. Et donc je travaillais en cosmologie, en relativité générale, donc je me confrontais aux représentations mathématiques de l'univers, donc cette fameuse théorie du Big Bang, avec toutes les questions qui...
C'était ça votre sujet de thèse, le Big Bang?
C'est le cadre général. Après, dans une thèse, vous résolvez des problèmes qui sont assez techniques et pointu dans ce cadre-là, mais vous devez vous confronter à comprendre ce cadre général. Et une des questions qui se pose, c'est toujours celle de l'infinité de l'univers. Il y avait déjà quelque chose d'assez intéressant en termes de révolution quasiment conceptuelle entre mon époque et celui d'Auguste Blanqui, c'est que depuis les années 1920, avec cette fameuse théorie du Big Bang, il y avait cette idée que l'univers n'avait pas toujours été tel qu'il était en changement, qu'il évoluait, que le futur est plus long que le passé, ce qui remet en cause quand même pas mal de conceptions que l'on a ancrées en nous et puis qui a nourri beaucoup des philosophes jusqu'au début du XXe siècle. Et je tombe sur ce texte d'Auguste Blanqui. Donc, comme beaucoup de gens, je connaissais la rue, je connaissais un petit peu son histoire pendant la Commune de Paris. Et je tombe sur ce texte, en fait, qui commence comme un texte scientifique. Il n'est pas lui-même scientifique, mais il va développer des arguments, des raisonnements de type mathématique pour se confronter à l'infini, pour essayer de tirer toutes les connaissances de l'infini. Et à la fin de ma thèse, dans ma troisième année de thèse, j'avais commencé à travailler sur un sujet, techniquement, c'est ce qu'on appelle la topologie de l'univers, mais en fait, c'est une question de se poser, savoir, est-ce que l'univers peut être fini? Est-ce qu'on peut construire des univers qui sont finis?
Est-ce qu'il y a un lieu à l'univers, en fait?
Pas un lieu, mais est-ce que l'espace dans lequel nous vivons peut être fini? Alors, on se pose toujours cette fameuse, si l'univers est fini, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit? Cette fameuse question du bord que l'on voit dans les illustrations, par exemple, de Camille Flammarion, avec ce berger qui tend son bâton, ou Architas de Tarente, si je me trouvais à la limite du monde, pourrais-je tendre au dehors ma main ou un bâton? Oui ou non? Hein, certes, il est impossible que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un au-dehors. Et en fait, on se rend compte que cet argument, ce paradoxe élevé par les mathématiques à la fin du 19e siècle, on comprend que, eh bien, il y a des espaces qui peuvent être finis, mais pour autant, n'ont pas de bord. Et on s'est posé la question de savoir est-ce que, eh ben, ces espaces étaient légitimes pour décrire notre propre univers? Comment on pouvait le savoir? Comment on pouvait le mettre à l'épreuve de l'observation de astrophysique?
Aujourd'hui, on en est où, Jean-Philippe Uzan, sur les bords de l'univers? On a gardé cette thèse-là, c'est-à-dire que l'univers est fini, mais il n'a pas de bord?
Non. Alors, donc, la question, on s'est posé cette question-là. Donc, ce n'est pas impossible mathématiquement qu'il soit fini. La question, c'est l'est-il? Et donc, ça, c'est l'observation qui va vous renseigner. Mais cette observation, elle est limitée par une chose. Je vous ai dit, l'univers aujourd'hui a un âge fini, 13,8 milliards d'années. C'est une première limite. La seconde limite, c'est celle de la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde. Ce qui veut dire que les galaxies qui sont trop trop loin, celles pour lesquelles leur lumière mettrait plus de 13,8 milliards d'années pour ne parvenir, on ne peut pas les voir, elles sont trop loin. Nous les verrons dans le futur. Et donc, nous ne pouvons observer qu'une petite zone finie autour de nous. Et comme nous n'observons qu'une zone finie, eh bien, il y a un moment, on va être limité. On peut pas faire la distinction à un univers qui serait extrêmement grand par rapport à la taille de l'univers. Dont on ne verrait qu'une partie. Et un univers qui serait infini. Donc, on voit que on arrive grâce à ces techniques-là et grâce à la logique, en fait, de la construction de dire, eh bien, il y a un moment, on ne pourra pas répondre. Et aujourd'hui, on a des contraintes sur la taille minimale que pourrait faire l'univers. C'est en gros 95% de la taille de cet univers observable. Et on peut chiffrer que si c'est 20 à 30% plus grand que cette taille qu'on est capable d'observer, les observations ne nous permettent pas de distinguer un univers très grand d'un univers infini. Moi, je trouve ça presque très satisfaisant intellectuellement.
Parce que moi, j'allais vous dire, alors je vous suis parfaitement, Jean-Philippe Uzan, mais j'ai des limites à mon imagination. Déjà, les chiffres, et on va en reparler parce que c'est une des questions que pose Blanqui dans L'éternité par les astres, mais ça ne représente rien ce que vous me dites.
Je suis vraiment désolé. C'est vrai que les chiffres, c'est compliqué.
C'est pas de votre faute, hein. Vous dites, je suis désolé,
c'est pas de ma faute. Mais bon, maintenant, aujourd'hui, les milliards, on commence à avoir une idée. On nous parle régulièrement de combien de temps il vous faudrait pour accumuler ce que certains milliardaires ont. Donc, on nous donne des images pour vulgariser ces grands chiffres.
Ça passe souvent par l'argent.
Voilà, ça passe par l'argent. Mais en fait, tout ce qui est sensible. Et c'est vrai que, je crois que c'est Jonas Kohn, qui était un philosophe allemand, qui définissait ça. Il disait, en fait, on ne comprend, il disait comprendre, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre. On ne comprend dont on est capable de déterminer les limites, de saisir. Et en effet, il faut avoir les limites, ce sont les limites qui nous permettent de saisir les choses. Alors ces limites, on les repousse. La science nous permet de repousser ces limites pour plein de raisons. Déjà, elle nous permet de rendre visibles des choses qui étaient invisibles. Donc elle enrichit l'ensemble des choses qui existent. Et puis surtout, votre esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais vous dire quelque chose, et ça c'est la dynamique du petit enfant, c'est à chaque fois, pourquoi ça? Pourquoi ça? Et en fait, on se rend compte que à chaque étape dans nos constructions scientifiques, on suppose que des choses existent, on comprend comment elles fonctionnent, on se pose des questions, on fait des expériences, on repousse ces limites, mais il y a toujours une limite à ce savoir. Parce que quand j'arrive avec un savoir, je dois supposer un certain nombre de choses et on va toujours pouvoir me demander, mais pourquoi est-ce que cette particule, pourquoi est-ce que cette force, pourquoi est-ce que... Et en fait, on a comme l'impression qu'il y a une sorte de pression de l'infini des questions que l'on peut poser, de l'imagination que l'on peut avoir et de la finitude des réponses que l'on peut apporter par la science. Donc, moi, je trouve ça intéressant et je pense que c'est une des grandes valeurs de la science, c'est d'avoir un savoir et de savoir identifier le plus clairement possible les limites de ce savoir.
Tout le problème étant que quand on parle de l'infini de l'univers, cette question des limites, elle est comme redoublée.
Elle est redoublée, tout à fait.
Quand vous travaillez sur votre thèse, Jean-Philippe Uzan, c'est sur l'infini. Alors, on a parlé du Big Bang, mais est-ce que vous aviez cette question de l'infini de l'univers à traiter ?
Non, pas l'infini directement. L'infini est là parce que dans la plupart des représentations, l'espace est infini et il y avait ces possibilités donc qui étaient offertes par ces mathématiques de considérer des espaces qui n'étaient pas infinis. La question, c'est de savoir, eh bien, est-ce qu'on peut savoir? Est-ce que l'on peut trancher cette question par l'observation? Donc ça, c'était le point de départ. Et donc, vous réfléchissez à cette notion d'infini. Bien sûr, les premières fois, on est confronté à l'infini et Blanqui le dit aussi. C'est par l'intermédiaire des mathématiques. C'est eux qui vont formaliser le concept de l'infini. Surtout que dès qu'on pense infini, on a plein de paradoxes qui se prestent à nous. Et on a l'impression que c'est une idée, mais complètement impossible.
Et puis presque angoissante. C'est-à-dire qu'aussi, non seulement je l'ai dit, quand vous en parlez, ça ne représente rien. C'est les limites de l'imagination. Il y a des limites de l'entendement. qui peut-être qui repose en partie aussi sur l'observation. Puis il y a des limites psychologiques.
Exactement.
C'est-à-dire que l'infini, ça nous plonge quand même aussi dans des affres existentielles.
Ça vous dissout complètement.
Voilà.
Mais si l'univers était fini, vous pourriez avoir la même chose, une sorte de claustrophobie, de se dire,
oui. C'est-à-dire que
galaxies...
pour vous, si vous êtes claustro, oui, effectivement, là, l'infini vous soulage.
Mais pas que en tant que psychologiquement claustrophobe.
Oui.
Mais par exemple, se pose cette question pour laquelle nous, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse, celle de l'origine de la vie. Partout où nous regardons, nous n'avons pas de traces d'autres vies dans l'univers. Est-ce que si on a un nombre infini de galaxies et qui chacune ont des centaines de milliards d'étoiles, cette question, quelque part, elle devient plus acceptable. On se dit, ça doit bien arriver quelque part d'autre. Si on est dans un univers fini avec un nombre fini de galaxies, d'étoiles, de systèmes planétaires, ça peut rendre notre condition beaucoup plus angoissante.
Quand vous tombez sur ce texte de Blanqui, Jean-Philippe Uzan, est-ce que vous vous dites... c'est n'importe quoi. Alors, je le précise quand même, c'est un texte qui a été publié sous forme de brochure en 1872. Il a été écrit quand Blanqui était détenu. Bon, ce qui était quand même, on l'a entendu, la majorité de sa vie. Il était détenu au Fort du Taureau. C'est un château au large de Morlaix, en Bretagne, sur un petit îlot. J'ai regardé des images. C'est assez mignon. En fait, c'était un fort où il était détenu. Il n'avait même pas le droit de regarder la mer, sinon on pouvait lui tirer dessus. Quand vous découvrez ce texte, on en est où des connaissances scientifiques ? Déjà d'une part, et puis d'autre part, vous le lisez à la fin du XXe siècle, vous vous dites quoi ? Vous vous dites c'est n'importe quoi, mais ça me dit quelque chose, je ne lis pas pour des connaissances scientifiques, mais pour quelque chose d'autre. Qu'est-ce que vous y trouvez ?
Déjà, j'y trouve une façon de parler de l'infini avec beaucoup de poésie, de la mettre en image. Il va imaginer en fait toutes ces combinaisons d'atomes qui font des molécules, qui font des êtres vivants, qui font des planètes. Donc quelque part, une façon d'écrire qu'on pourrait, de cette époque-là, Camille Flammarion, pareil, qui a un style tout à fait hugolien. Donc en fait, de cet endroit où finalement là, il y a encore une grande porosité entre un certain savoir scientifique, une certaine poésie, et puis pour certaines personnes, en fait, une sorte de culture commune. Et puis ensuite, cet argument qu'il développe, c'est aussi le genre d'argument sur lequel on commençait à se disputer assez frontalement dans le domaine de la science, avec ces histoires d'univers multiples, de multivers, et en savoir ces structures qui étaient invoquées pour plein de raisons scientifiques, de savoir est-ce que c'était des objets de science ou pas, puisqu'on ne pourrait pas les mettre à l'épreuve de l'expérience, parce que en fait, elles nous confrontaient éventuellement au fait que nous existions une infinité de fois dans une structure qu'on n'était pas capable de définir. Et c'est exactement ce qui sous-tend le texte de Blanqui. Et en fait, on voit que son raisonnement résonne avec des argumentations alors qui sont à la limite de la science, qui sont dans les spéculations les plus avancées de la science.
Donc, mais il ne dit pas n'importe quoi,
non,
déjà.
Il ne dit pas n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Je me dis, mais c'est un homme politique, un philosophe de son temps. Il a une connaissance du savoir physique et chimique de son temps, donc les atomes qui existent, la façon dont les atomes...
Les 64 corps simples.
Voilà, exactement. La façon dont ça forme des atomes, des molécules... et puis la façon dont est structuré l'univers avec des systèmes planétaires, des comètes. Il n'emploie pas le mot de galaxie parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore qu'il y avait des galaxies, mais il parlait de nébuleuses.
Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'étais assez fascinée par ce terme de nébuleuse qu'il emploie tout le temps. Il essaye à tout prix de vouloir distinguer la nébuleuse de la comète en disant ça n'a rien à voir. Et moi, en le lisant, je me dis, qu'est-ce qu'il en sait ? Moi-même, n'ayant pas une très grande culture scientifique, comme je vous l'ai dit avant l'émission, je me dis, mais pourquoi il dit ça ? Pourquoi il parle de nébuleuse ? Une nébuleuse, pour moi, c'est un amas un peu lumineux, un peu diffus.
Voilà, donc à cette époque, les nébuleuses, comme le disait Galilée lui-même, ce sont des troupeaux de petites étoiles qui apparaissent de nature transparente, nature laiteuse et transparente. Ça a plus des structures un petit peu, on va dire, comme une sorte de paquet d'étoiles. On ne sait pas trop ce que c'est à l'époque. Une comète, on arrive à la différencier, en particulier au télescope, avec sa queue. Donc on voit la structure d'une comète. Et là, on ne savait pas ce que c'était. Et c'était un des grands débats de cette époque, savoir est-ce que ces nébuleuses sont d'autres galaxies identiques à la nôtre, ce que Emmanuel Kant appelait les univers-îles dans sa théorie du ciel, ou est-ce que ce sont des structures qui sont à l'intérieur de notre galaxie ? C'est le grand débat qui va animer la fin du 19e, le début du 20e, et la preuve de l'existence d'autres galaxies va être annoncée le 30 décembre 1924 par Edwin Hubble, donc le grand astronome américain, devant la Société astronomique américaine. Et donc on avait des indications, il y avait que, ça c'est pas quelque chose qui se fait en une journée, donc il a fallu plusieurs décennies, créer ce télescope télescope du Mount Wilson, qui était à l'époque le plus grand télescope du monde, pour arriver à cette preuve-là. D'autres personnes y ont contribué. Et on arrive vers 1924, à savoir qu'il existe d'autres galaxies identiques à la nôtre. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va
là,
nous emmener...
Là, le terme s'impose de galaxie.
Le terme va s'imposer, notre galaxie s'appelle la Voie lactée, le lait en grec, c'est galaxie. Hein. Et donc, galaxie...
Et il y a un chocolat qui s'appelle comme
et
ça.
Et il y a un chocolat qui s'appelle comme ça, en effet. Et donc, le terme s'impose. Et donc, ça chamboule notre relation à l'espace. C'est encore une nouvelle un nouveau décentrage copernicien. En 1543, Copernic nous dit « La Terre n'est pas au centre du système solaire ». Au 19e siècle, on savait que le Soleil n'était pas au centre de la Voie lactée, qu'il était à une certaine distance, qu'il orbitait autour du centre de la Voie lactée. On ne savait pas si tout l'univers ne se restreignait à la Voie lactée ou s'il y avait d'autres galaxies. 1924, nouvelle révolution, il existe des milliards de galaxies. Si l'univers est infini, probablement un nombre infini de galaxies. On sait que dans notre univers observable, il y en a plus de 2000 milliards et on en découvre toujours de plus anciennes, en particulier pour ceux qui suivent un petit peu avec le James Webb télescope qui remet les choses, qui nous apporte de nouvelles informations. Donc on est dans cette... En fait, la science, à un moment, vous confronte à des choses qui sont là. Que vous ayez envie d'y penser ou pas, ce n'est pas un problème. Oui. Qu'elles vous embêtent ou pas, ce n'est pas un problème. Il faut les accepter. Donc, je pense qu'il y a ça aussi dans la
science. Mais ça rejoue à chaque fois aussi une vision, et on va le voir avec Blanqui, une vision politique, une vision métaphysique, pas que psychologique, vous avez raison, mais de où suis-je dans cet univers, quelle place je peux avoir, comment on s'organise à plusieurs. Quand vous ouvrez ce texte, est-ce qu'il y a une intuition qui s'y joue, qui vous aide soit de manière très scientifique pour avancer par hypothèse dans votre thèse, ou quelque chose justement de beaucoup plus, on dirait philosophique, métaphysique, c'est-à-dire cosmologique dans le sens plus d'origine de l'univers, de réflexion sur l'univers.
Alors c'est pas un texte qui va influencer mon travail scientifique.
Vous n'avez pas ouvert une porte?
Non, pas du tout. Mais c'est un texte qui va me faire réfléchir en fait sur ce que produit la science. Au-delà des articles, au-delà des faits qu'on va établir, qu'est-ce que la science produit? Quelles sont les images qu'elle produisent et qui vont se disséminer dans la culture? C'est peut-être aussi par cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser un tout petit peu à la diffusion des connaissances. Et ça va m'amener ce texte-là et ces histoires, ces réflexions sur la finitude de l'univers jusqu'à aller faire du théâtre. Donc en fait... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, un savoir dépasse les murs d'un laboratoire, fait culture, et puis comment est-ce que certaines connaissances sur notre univers peuvent avoir des conséquences politiques? Parce qu'on a l'impression que s'intéresser aux étoiles qui sont là-bas ne va rien changer sur
notre
vie ici sur Terre. Et en fait, on peut se dire que c'est complètement faux. C'est-à-dire, nous vivons dans l'univers, notre planète est dans l'univers, et cette connaissance de l'univers a... des conséquences politiques et pour Blanqui des conséquences émancipatrices. Et ça, j'ai trouvé que trouver dans la science en fait un tel souffle, ça donnait espoir.
Et est-ce que dans votre thèse vous avez donné une coloration politique, du coup, ou même dans vos travaux aujourd'hui, politique à vos découvertes, vos recherches scientifiques?
Alors dans ma thèse non, parce que voilà, une thèse,
on se permet pas.
C'est pas qu'on se permet pas, c'est que on peut faire une introduction qui est plus libre, mais c'est vrai que on présente des tables, des résultats qui ont été démontrés, des résultats d'expérience, d'observation.
Oui, on n'est pas là-dessus en fait,
voilà,
c'est pas le sujet.
Ce qu'on est en train de juger, une thèse, c'est juger un savoir technique, c'est savoir d'avoir une vision de son domaine de recherche. Et dans les articles de recherche, c'est aussi assez assez triste les articles de recherche. Hein,
c'est du Blanqui. Hein.
Non, c'est pas du Blanqui. Déjà, c'est en anglais. C'est à la troisième personne. C'est assez impersonnel. On parle de faits, on parle d'expérience. Et c'est là où, quelque part, le scientifique a tendance à s'effacer, parce que ça, c'est un peu la méthode scientifique qui lui impose ça. C'est-à-dire qu'on doit être capable de présenter un savoir qui ne dépend pas du fait que ça soit moi qui l'établis, que ça soit moi qui ai fait l'expérience. Ce savoir doit être reproductible par tout un chacun, au moins dans le principe. Et c'est vraiment une des valeurs importantes de la création du savoir scientifique. Mais c'est là où on se dit, mais il y a une autre possibilité, c'est de parler en fait de ce que fait ce savoir dans d'autres textes qui sont pas des textes de recherche scientifique, mais des textes de réflexion sur ce que ce savoir nous a fait comprendre, comment il nous a changé et évolue éventuellement sur ses implications politiques.
On va écouter tout de suite un extrait de L'éternité par les astres, grâce à vous, Jean-Philippe Puzan, qui nous avait conseillé ce texte d'Auguste Blanqui.
Ici, nous entrons de droit dans l'obscurité du langage. Parce que voici s'ouvrir la question obscure. On ne pelote pas l'infini avec la parole. Il sera donc permis de se reprendre plusieurs fois à sa pensée. La nécessité est l'excuse des redites. Le premier désagrément est de se trouver en tête-à-tête avec une arithmétique riche, très riche en noms de nombres, richesse malheureusement assez ridicule dans ses formes. Les trillions, quadrillions, sextillions, etc. sont grotesques, et en outre ils disent moins à la plupart des lecteurs qu'un mot vulgaire dont on a l'habitude, et qui est l'expression par excellence des grosses quantités, milliards. En astronomie, il est cependant peu de choses ce mot, et en fait d'infini, il est zéro à peu près. Par malheur, c'est précisément à propos d'infini qu'il vient d'autorité sous la plume. Il ment alors, au-delà du possible. Il ment encore lorsqu'il s'agit simplement d'indéfini. Dans les pages suivantes, les chiffres, seul langage disponible, manquent tous de justesse ou sont vides de sens. Ce n'est pas leur faute, ni la mienne. C'est la faute du sujet. L'arithmétique ne lui va pas. La nature a donc sous la main 100 corps simples pour forger toutes ses œuvres et les couler dans un moule uniforme, le système stello-planétaire. Rien à construire que des systèmes solaires et 100 corps simples pour tout matériau. C'est beaucoup de besogne et peu d'outils. Certes, avec un plan si monotone et des éléments si peu variés, il n'est pas facile d'enfanter des combinaisons différentes qui suffisent à peupler l'infini. Le recours aux répétitions devient indispensable.
Extrait de l'éternité par les astres, hypothèse astronomique d'Auguste Blanqui. Nous sommes ici au chapitre 7, lu par Nicolas Berger. Alors, il y a 8 chapitres, Jean-Philippe Usan, dans ce texte. Donc, on est déjà à la fin, en fait, de sa démonstration. Auguste Blanqui nous a parlé de l'indéfini, des 64 corps simples, des comètes, de l'origine du monde. Et là, dans ce chapitre qui commence à être presque une synthèse, qui se présente d'ailleurs comme ça, analyse et synthèse de l'univers, il en vient du coup à parler de l'infini avec cette phrase. Alors, Nicolas Berger l'a lu ainsi, on ne pelote pas l'infini avec la parole. Moi, j'aurais dit on ne plote pas l'infini pour avoir un côté plus proximité, quoi. Il y a un peu ça, il y a un truc qu'on n'arrive pas à embrasser. Voilà.
Et en fait, si on veut résumer, son argument est assez simple. Imaginez que vous jouiez au Lego, vous ayez un nombre de pièces qui sont finies, et puis vous faites toutes les combinaisons possibles. Alors bien sûr, si vous faites des combinaisons de 2 pièces, elles vont vite se répéter. Mm-hmm. Si vous faites des combinaisons de 4 pièces, elles vont se répéter un peu moins souvent. Et puis, vous pouvez estimer qu'un corps humain, je ne sais pas de combien de milliards de petites pièces, de petits atomes empilés les uns les autres, mais c'est un nombre fini. Et donc, si je prends tous ces atomes et que je fais des combinaisons d'atomes qui vont donner moi ou qui vont donner vous, c'est un nombre fini. Très, très peu. Quoi, il y a un nombre qui est énorme, ce qui fait que la probabilité que ça arrive est très, très faible. Mais il dit, si je demande à l'infini de ne pas répéter, il y a un moment, la nature ne va pas pouvoir, elle va être obligée, puisque voilà, il y a un moment, on a exaucé toutes les combinaisons possibles, il va falloir répéter. Et ça, c'est son point de départ, c'est que dans l'infini, toutes les choses doivent se répéter à un moment ou à un autre. La logique nous amène à cette conclusion qui est qu'on ne peut pas contredire. Donc ça, c'est son point de départ. Mmh. C'est son point de départ, ce qui veut dire, si on en tire toutes les conclusions, que en fait, cette discussion que nous avons ici aujourd'hui, elle a lieu quelque part à une distance, mais tellement loin qu'elle n'est inaccessible pour nous, dans un autre partie de l'univers, mais elle a lieu. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que il y a des endroits où nous avons cette discussion, mais c'est vous qui m'expliquez, c'est moi qui suis le présentateur radio. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les combinaisons. Donc, quelque part, on arrive à ce vertige de se dire tout ce qui est possible est réalisé quelque part dans l'infini.
Donc, il n'y a pas de possible. En fait, tout est réalisé, finalement.
Tout est réalisé. Donc, ça commence... on se rend bien compte que dans cette conclusion où on extrapole, eh bien, on se rend compte qu'on sort du champ scientifique. On est en train de construire un système métaphysique, un système philosophique où tout ce qui est possible existe. Et ça, il y a des philosophes qui ont étudié ce genre de choses. Et la question, c'est de se dire, est-ce que ça donne une représentation fidèle du monde et pourquoi c'est utile? Alors, peut-être que c'est pas utile pour la science, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on observe qu'une petite partie de l'univers, et on n'a pas besoin de penser à tout ça, et que, fort probablement, l'univers a des milliards de milliards de milliards de milliards d'années-lumière au-delà de notre univers visible, et peut-être différent, parce que j'ai pas la preuve de prouver qu'il est semblable au nôtre, même si je pense que les lois de la nature, ils sont identiques, et ça, on a des arguments de la physique pour nous l'indiquer, mais pour autant, est-ce que cet argument, cette extrapolation est quelque chose qui fait sens? Et c'est là où on touche un point central, c'est que dès que l'on voit ce mot infini apparaître dans un raisonnement comme ça, on a l'impression que tout est possible.
Exactement. Il y a deux types d'infini qu'on a en tête. Il y a l'infini qui est illimité, c'est-à-dire où là, l'univers n'a pas de bord, n'a pas de limite. Enfin, tout est effectivement possible, comme vous le dites. Et puis, il y a aussi ce qui est de l'ordre de la variété infinie, c'est-à-dire que les compositions sont simples. On a un nombre, par exemple, on a 26 lettres dans l'alphabet, mais par contre, on pourra inventer autant de mots qu'on veut.
Exactement. Et ça, c'est bien de parler de nombre de lettres, parce que ça, ce texte-là, pour moi, il est rentré en résonance avec un autre texte que je connaissais depuis, on va dire, mon adolescence, mm-hmm. qui est le texte de la bibliothèque de Borges, qui lui a été écrit en 1941. Il se pose exactement cette question. Il imagine une bibliothèque où il y a deux livres de 60 pages avec un certain nombre de lignes et de caractères par ligne dans une langue qui utilise 22 lettres de l'alphabet, ouais. l'espace, la virgule et le point. Et il se dit, en fait, tous les livres sont écrits. Et il y a un moment, en fait, si la bibliothèque est infinie, il y a des livres qui vont se répéter. Et lui, donc vous voyez, c'est le même système de construction, un nombre fini d'éléments de base qui crée des objets qui sont des combinaisons de ces éléments de base, et ce qui est un peu le cas pour nous, puisque nous sommes faits de particules élémentaires. Et se pose la question de savoir, est-ce que ça se répète ou pas? Blanqui prend le parti de l'infini et Borges dit... On dit que dans la bibliothèque, on ne trouve jamais deux fois le même ouvrage. Donc, la bibliothèque serait finie et complète. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui est le plus... Là, on est vraiment dans une réflexion physique. On voit qu'on part des mêmes structures, du même mécanisme. Et puis, soit c'est le fini, soit c'est l'infini. Et on arrive à des mondes qui sont radicalement différents.
Est-ce que vous voulez écouter la voix de Borges, justement?
Ah oui, je veux bien, oui.
Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a deux idées. D'abord, il y a une idée qui n'est pas du tout la mienne, qui est un lieu commun, l'idée d'une possibilité de variation presque infinie avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, il y a eu aussi, sans que je m'en trouble beaucoup, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise, et ne pas savoir quelle est la vraie solution. C'est-à-dire, dans ces contes-là, et je l'espère dans tous mes contes, il y a une partie intellectuelle, et puis il y a l'autre partie, qui est plus importante, du sentiment de la solitude, de l'angoisse, de l'inutilité, du caractère mystérieux de l'univers, du temps, et ce qui est plus important de nous-mêmes, de moi-même, je dirais, non ?
La voix donc de Borges, c'était le 1er mars 1965, c'était sur France Culture dans Entretien avec, alors ça tombe à point avec ce que vous disiez Jean-Philippe Husson, effectivement il y a deux types d'infini et Blanqui et Borges incarnent en fait d'une certaine manière ces deux types d'infini, mais dans les deux cas, ce que nous dit Borges, on revient à une dimension psychologique, mais on pourrait évacuer la dimension psychologique d'angoisse, de solitude, de perte de repères en insistant en fait plutôt sur une dimension morale, parce que j'ai cette question à vous poser. Blanqui nous dit l'univers est infini, il y a des corps simples, les combinaisons sont infinies, mais en fait le monde n'est fait que de répétitions. Qu'est-ce que ça engage pour l'homme, lui qui était révolutionnaire, lui qui voulait changer le monde, l'idée du progrès, l'idée des possibilités infinies tombe. Alors, est-ce que c'est la science qui l'a amené peut-être à reformater sa politique de ce point de vue-là, ou est-ce que c'est une intuition politique qu'il a eue et qu'il a voulu soutenir aussi avec la science? Est-ce que ça, vous savez?
Ça, c'est un peu difficile de répondre à cette question. Ce qui est clair dans son texte, c'est que ça commence par un espoir. C'est-à-dire que si tout est possible dans ce monde-là, il existe quelque part des systèmes planétaires où il y a une Terre, et dans laquelle, Terre sur laquelle la Commune de Paris a abouti, où la révolution a été victorieuse, où lui-même n'est pas enfermé. Donc, quelque part, et vous avez évoqué les conditions difficiles dans lesquelles il se trouvait en prison, c'est une façon de survivre, en fait, d'imaginer qu'il y a de l'espoir, que c'est possible. Et donc, si c'est possible, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que ça se réalise aussi ici, puisque c'est prouvé possible dans l'univers. Ça fait partie de l'espace des possibles. Donc, on fait rentrer quelque chose qui pouvait être évacué, on le fait rentrer dans l'espace des possibles. Et puis ensuite, dans une deuxième étape, il se dit, en effet, tous ces fantômes, quoi, tous ces sosies, il parle de nos copies de nous-mêmes, il dit, tous ces sosies ne sont point là des fantômes, c'est de l'actualité éternisée. Et il arrive à cette conclusion, dans un tel univers, il n'y a pas de progrès. Alors c'est là...
Mais le choc, un socialiste qui est révolutionnaire, qui mise quand même sur un temps qui est linéaire, qui donc en fait a une progression logique, qui va vers un meilleur, qui mise aussi sur la nouveauté, sur la rupture, nous dit « mais tout ça a déjà eu lieu ». En fait, arrêtez de rêver d'une certaine manière. C'est possible ailleurs, mais c'est pas possible pour vous ici.
Voilà, l'infini le confronte à ça. Alors, il n'y a pas de progrès à l'échelle de cet univers infini. Mais bien sûr, dans votre environnement local, vous avez le pouvoir de faire progresser la situation. Et là, vous êtes encouragé par le fait que vous savez qu'ailleurs, il existe en fait des mondes meilleurs. Et donc, moi, je le verrais. Donc voilà, on est dans une question que l'on ne peut pas trancher par de la science. Et donc, ce sont des principes, des valeurs non scientifiques qui vont vous permettre de choisir un petit peu dans quel type d'univers vous vivez, mais vous en tirez les conséquences. Et pour Blanqui, c'est bien sûr ce progrès qui n'existe pas à l'échelle de l'univers, mais c'est aussi un espoir que, comme ça fait partie de l'espace des possibles, ce monde avec plus de commun, avec plus de bonheur, eh bien, pourquoi ne pas tout mettre en œuvre pour que ça se réalise aussi ici, sur notre planète ?
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que scientifique, de cette idée de redite et de répétition ?
Alors, c'est quelque chose qui est...
Fini, vous avez anticipé sur l'autre texte que nous allons diffuser sur le programme, enfin, on l'anticipe ensemble, mais à la fin du texte qu'on a entendu juste avant l'archive de Borges, il dit quand même vraiment ceci, le recours aux répétitions devient indispensable. Alors c'est une chose d'envisager qu'il y a d'autres possibles ailleurs qu'on ne connaît pas, c'en est une autre de parler de répétition.
Alors, cette question-là, elle est très liée... En fait, au type d'objet qu'on va considérer. Si vous prenez les atomes, c'est assez fou, mais tous les atomes sont identiques les uns aux autres. Donc ça, c'est aussi un truc qui peut renverser l'esprit, c'est que si je prends tous mes atomes de carbone et les vôtres et qu'on échange nos atomes,
ça changera rien.
Vous serez toujours la même personne et moi toujours la même personne. Et donc, la science, c'est surtout les sciences qu'on appelle dures, en fait, se sont concentrées sur des objets qui sont assez simples, les atomes, les molécules, qui sont en fait tous identiques les uns aux autres. Et puis, il y a un moment, avec la complexité qui se développe, vous avez par exemple les êtres humains, on sait que, eh bien, on a une idée de ce que c'est qu'un être humain, ils sont tous semblables, mais ils sont pas identiques. Et donc, il y a des variations. Et puis, dès qu'on commence à faire rentrer des choses encore plus complexes, comme la pensée, eh bien, on est un petit peu à la limite de ce qu'on peut dire, parce que on pourrait avoir les mêmes combinaisons d'atomes, question qui se pose et que ne se pose pas Blanqui, est-ce que toutes ces répétitions de vous et de moi, est-ce qu'ils ont la même mémoire ? Est-ce qu'ils ont les mêmes constructions de leur imaginaire ? Tout ce qui n'est pas fait à partir de mots. Alors on pourrait argumenter, comme on le ferait peut-être aujourd'hui avec les développements de l'informatique, de dire en fait tous ces discours ne sont que des suites de 0 et de 1 qui forment des discours et ainsi de suite. Et donc on aurait peut-être aussi un ensemble de discours finis, mais là, ou d'états mentaux finis, mais ça, on ne sait pas. Donc, on voit qu'on est dans, si on va dans ce monde de la complexité, en fait, l'argument est très, très difficile à pousser. C'est-à-dire que, est-ce que c'est exactement les mêmes ou est-ce que c'est simplement leur charpente matérielle qui est la même ? Je ne sais pas.
Donc, il y a une dimension, on va dire, scientifique, il y a une dimension politique, on l'a évoqué, et puis il y a aussi cette dimension morale. Qu'est-ce que ça change de savoir ça, par exemple, de se dire, ma vie peut être ailleurs. Il y a notamment un texte où Blanqui parle effectivement de... et vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Philippe Buzan, on pourrait être ailleurs dans un studio à avoir cette même conversation, sauf qu'en fait, ce serait moi la scientifique. J'en serais très flattée d'être cosmologiste. Qu'est-ce que ça change de dire ça ? C'est comme pour Nietzsche et l'éternel retour. L'implication morale, c'est quand même de dire qu'on doit désirer revivre et revivre éternellement sa vie. Donc, il y a presque quelque chose de l'ordre, je sais que ça ne s'appliquerait pas à Nietzsche, mais de perfectionnement, de perfectionnisme moral. Est-ce que là, ça change quelque chose à notre manière de nous comporter, de nous dire ça ?
Je pense que ça change quelque chose dans le fait que si c'est vous la scientifique, Vous allez aussi avoir des responsabilités qui vont venir avec votre savoir. En fait, on a tous des responsabilités. Et surtout, quand on amène un certain savoir, qu'il soit scientifique ou non scientifique d'ailleurs, dans l'espace public, on a une responsabilité par rapport à cette parole que l'on amène. Et là, avec Blanqui, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que il y a des gens qui lui ont donné ces éléments qui lui permettent de faire cette rêverie astronomique. Mais c'est pas quelque chose qui vient de nulle part. C'est quelque chose qui a complètement changé la relation de l'être humain à son univers. En 1543, quand Copernic a écrit son livre sur les orbes célestes, il nous dit « La Terre n'est pas au centre de l'univers, n'est pas au centre du système solaire. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. » Donc il nous explique que les apparences nous trompent et que notre planète est une planète comme les autres. Donc ça veut dire, attention, vous n'êtes plus au sommet de la hiérarchie cosmique. Vous êtes en fait un parmi d'autres. Donc ça, c'est un bouleversement de la place de l'homme dans l'univers qui va être pris par d'autres penseurs comme Giordano Bruno qui va penser ça très très loin en disant mais il y a d'autres étoiles là-bas. Donc peut-être que ces étoiles, il y a des planètes autour et des êtres vivants sur ces planètes. Il sera brûlé pour avoir cette pensée, mais aujourd'hui on sait que c'est le cas. En 1995, pour la première fois, on a détecté ce qu'on appelle les exoplanètes, des planètes autour d'autres étoiles. On ne sait pas pour la vie. Et puis on a Blanqui ensuite qui va un petit peu plus loin et qui dit en fait, ces autres civilisations, alors il ne cite pas Bruno, mais on imagine que c'est dans cette lignée de pensée, eh bien, peut-être que parmi eux, il y en a qui ont des systèmes politiques qui sont identiques aux nôtres. Peut-être que moi, je me retrouve dans un autre système à l'infini. Et ça va même très très loin. Et donc, à la même époque, on a donc ce principe copernicien qui part d'un principe, on va dire, strictement astrophysique, de construction du monde à un point de vue de plus en plus politique. Ça finit pour moi avec des gens comme Élisée Reclus, hein, parce qu'il vous dit, chaque individu nous paraît être le centre de l'univers. Si l'univers n'a pas de centre, il faut faire attention, l'univers n'a pas de centre, il est infini, il y a des copies partout, mais moi, je suis au centre de mon propre univers.
Mais c'est paradoxal, parce que ça veut dire qu'on a chuté, en fait, dans la hiérarchie cosmique, l'homme, et finalement, on s'est auto-réhabilité dans un autre univers qui, en fait, est beaucoup plus individualiste, tel que là...
C'est pas individualiste, parce qu'il est relationnel, c'est-à-dire que c'est... Pour moi, il y a vraiment une dimension politique parce que Reclus nous dit, je suis au centre de mon univers, nous sommes tous au centre de nos propres univers, donc on doit avoir tous les mêmes droits au développement. On ne peut pas accepter, l'intervention d'un pouvoir qui va nous diriger, qui va nous châtier, ainsi de suite. Il dit que, en fait, quelque part, l'histoire de l'univers justifie le fait qu'il y ait une sorte d'égalité, de collaboration entre les êtres. Et en fait, on peut se dire à partir de ce moment-là que si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on doit collaborer. On est, et ça c'est l'évolution, on va dire, de la deuxième partie du XXe siècle, où avec l'exploration spatiale, on comprend que la Terre, ce petit point bleu pâle, comme l'appelait Carl Sagan, qui est perdu entre un rayon de lune et un rayon de soleil, c'est sur ce petit point bleu pâle, sur ce petit caillou insignifiant que tout ce que nous connaissons, s'est développé, tous les pères et mères, les constructeurs de civilisations, les destructeurs, les philosophes, tout n'a été... Et il dit, attention, regardez la vanité de l'humanité. Et je pense que dans ce vertige vers l'infini, ça appelle à l'humilité. Et peut-être que c'est ça aussi, l'astronomie nous invite à une certaine humilité et à réaliser à quel point ce petit point bleu sur lequel nous vivons est particulier et fragile. Et ça, on en a aussi la preuve scientifique aujourd'hui, des effets de la modification en particulier du climat de notre planète. Et donc, ça veut dire que ça augmente notre responsabilité. C'est intéressant que ça existe à une distance inimaginable qui est la même planète Terre. Ils ont probablement les mêmes problèmes. Et surtout, ça ne nous enlève pas la responsabilité à nous de pouvoir vivre en communauté et à perdurer ensemble sur ce point-là. Parce que on sait, et ça la science nous le dit aussi, que éventuellement on va explorer quelques planètes voisines, mais émigrer, c'est pas possible, au moins dans un futur proche. Donc on voit que quelque part, ça remet la responsabilité sur les gens qui sont ici, avec qui on cohabite.
Et puis, dans le texte de Blanqui, il y a cette citation, c'est-à-dire que, vous le dites, Jean-Philippe Puzan, ça pousse à l'humilité, mais aussi à une certaine forme d'incertitude. En fait, on retrouve aussi quand même cette idée de aussi Nietzsche, comme l'éternel retour de l'incertitude. Ce moment où Blanqui dit « On ne triomphe pas d'un obstacle par une absurdité ». Alors, le moment où il dit ça, c'est le moment où il parle des comètes, donc c'est un point très précis, mais finalement, c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à tellement de choses. C'est-à-dire accepter l'incertitude et accepter des zones en fait, que le savoir scientifique ne peut peut-être pas trancher, pas encore ou peut-être jamais, mais qui doit être investi peut-être avec prudence et même pas en fait avec de la fiction, parce que ça pourrait tomber à l'absurdité. Ne même pas l'investir peut-être.
Voilà, mais c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Pour moi, une des grandes forces de la science, c'est savoir identifier les limites de son propos. Mmh. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire qu'on va déterminer un ensemble de questions pour lesquelles le savoir scientifique peut trancher de façon, on va dire, la plus rationnelle possible. Et ça, ça peut être une base, en particulier pour prendre des décisions politiques sur un certain nombre de sujets. Et puis, il y a des choses qui sont au-delà de ça. Et quand c'est au-delà de ça, on gagne en liberté. Je crois que c'est Baudelaire qui disait que la certitude astronomique n'est pas si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. Donc la rêverie peut se loger là, et on peut faire de la science-fiction.
Et comment faire la différence entre une absurdité et une rêverie ?
Eh bien, c'est là où je pense qu'il y a eu un progrès, c'est-à-dire que pour les sciences dures, on a cette fameuse méthode scientifique qui nous donne les modalités de la création du savoir, la reproductibilité, le fait que on doit trancher par l'expérience. On sait très bien, vous pouvez avoir n'importe quelle idée que vous voulez. Ça, c'est, vous avez le droit d'explorer les idées, mais il y a un moment, si l'expérience vous dit que vos idées ne sont pas correctes, c'est de dire que on écoute la nature, on pose des questions à la nature qui nous répond quand on lui pose les bonnes questions. Il faut faire attention à la façon dont on pose les questions à la nature. Et puis, il y a un moment où on n'a plus de réponse. Et là, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête. Ça veut dire qu'on est humain ensemble et qu'on peut arriver avec des visions différentes. Et c'est là aussi, quelque chose qu'on a vécu ces dernières décennies, de comprendre qu'au-delà de ce savoir entre guillemets universel comme vision de nulle part absolue, il y a des savoirs situés et que si on veut pouvoir s'entendre, il faut toujours donner le point de vue avec lequel on affirme telle ou telle chose et que là, on est capable d'en discuter. Si j'arrive avec un certain point de vue d'artiste, un point de vue d'auteur de science-fiction, un point de vue de scientifique. On peut mêler nos regards si quelque part on ne ment pas aux gens qui nous écoutent en faisant passer nos opinions, nos rêveries pour des certitudes scientifiques et que une fois qu'on a ces points de vue-là, on évite tout relativisme. Et c'est ça qui est important. C'est surtout ne pas utiliser le fait qu'à un moment, la science dit « là, je ne suis plus capable de vous donner des réponses certaines » pour utiliser cet argument déjà pour prôner l'irrationnel et deuxièmement pour tomber dans le relativisme, parce que là on serait en train de déconstruire et de détruire en fait ces valeurs de la science et du savoir qu'elle a établi.
On va encore écouter un texte d'Auguste Blanqui extrait de L'éternité par les astres. Nous sommes à la fin du livre et vous avez déjà commencé à l'évoquer, Jean-Philippe Vuzan, et même à citer un moment de ce texte.
Tout astre, quel qu'il soit, existe en nombre infini dans le temps et dans l'espace, non pas seulement sous l'un de ses aspects, mais tel qu'il se trouve à chacune des secondes de sa durée, depuis la naissance jusqu'à la mort. Tous les êtres répartis à sa surface, grands ou petits, vivants ou inanimés, partagent le privilège de cette pérennité. La Terre est l'un de ces astres. Tout être humain est donc éternel dans chacune des secondes de son existence. Ce que j'écris en ce moment dans un cachot du fort du Taureau, je l'ai écrit et je l'écrirai pendant l'éternité, sur une table, avec une plume, sous des habits, dans des circonstances toutes semblables. Ainsi de chacun. Le nombre de nos sosies est infini dans le temps et dans l'espace. En conscience, on ne peut guère exiger davantage. Ces sosies sont en chair et en os, voire en pantalon et en paletot, en crinoline et en chignon. Ce ne sont point là des fantômes, c'est de l'actualité éternisée. Voici néanmoins un grand défaut, il n'y a pas de progrès. Hélas, non, ce sont des rééditions vulgaires, des redites. Tels les exemplaires des mondes passés, tels ceux des mondes futurs. Seul le chapitre des bifurcations reste ouvert à l'espérance. N'oublions pas que tout ce qu'on aurait pu être ici-bas, on l'est quelque part ailleurs.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Il n'y a pas de progrès, non, ce sont des rééditions vulgaires, des redites. On en parlait au moment où on diffusait ce texte, Jean-Philippe Usan, quand les micros étaient coupés. C'est vraiment un texte qui est incroyable à lire. Vous avez parlé de la poésie, de la porosité entre poésie et savoir scientifique, parfois aussi des limites entre les deux, entre la rêverie et l'absurdité. Mais là, ce texte, il est incroyable. Lire aussi ce texte de Blanqui, je veux le préciser, parce qu'en fait, ça peut faire penser à des passages du poème de Lucrèce sur la nature des choses, sur la manière dont il décrit la formation de l'univers. On est vraiment voilà, dans cette dimension poétique, mais complètement, on pourrait dire, rationalisée, légitime. On y croit, on est d'accord.
On est d'accord. Et c'est ça, il nous emmène. Et je pense que c'est un peu l'autre côté de la pièce. On dit, voilà, si je vous donne des articles publiés dans des journaux scientifiques, c'est assez aride, on ne parle jamais de nos sentiments, de comment la découverte a été faite. Les gens qui ont la chance que c'est leur découverte ou leur devienne reconnue, importante, il y a un moment, ils vont vous raconter l'histoire de la découverte, donc ils vont remettre, et parler de leurs intuitions, parler de pourquoi des fois ils ont été inspirés par des choses qui n'étaient pas scientifiques, parce que ça aussi, dans la création du savoir, parfois, il y a des influences qui ne sont pas du tout scientifiques, on rationalise toutes les choses après pour leur donner leur valeur scientifique. Et là, quelque part, on remet de la chair, on remet de l'humain, on remet du verbe. Donc, quelque part, on a, tout à l'heure, on a évoqué Camille Flammarion, c'est un peu ce que vous liriez dans l'astronomie populaire, dans certains textes de Victor Hugo. En fait, on est dans une période, cette fin du 19e siècle, où il y avait, en fait, quelque part.
Vous en faites pas, vous ?
Moi, j'écris pas aussi bien que ça, je sais pas, quoi. Mais donc nous, moi personnellement, j'ai eu la chance, et d'ailleurs c'est cette histoire de finitude de l'univers qui m'a amené à ça, parce qu'en 2003, j'avais écrit un article, on avait des indications de trucs et qui a été un petit peu visible, et suite à ça, j'ai reçu un mail d'une personne qui me dit, est-ce que l'univers est fini? Est-ce que l'univers est infini? Bon, ça, j'en reçois assez régulièrement.
C'est vrai? Qui ont vu vos conférences ou même comme ça, passer? En fait, c'est des questions qui habitent.
Même des gens qui ont leur propre théorie, leur propre vision, qui vous écrivent. Malheureusement, on peut pas répondre à tout le monde. Mais celui-là, il y avait simplement un texte attaché qui me dit, est-ce que vous pourriez lire ce texte-là? Éventuellement, on pourrait en parler. Donc, je regarde ce petit texte et c'est le texte qui s'appelle Kant de Jon Fosse. Donc, Jon Fosse, qui est un dramaturge norvégien, qui maintenant est connu, il a eu le prix Nobel il y a quelques années. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui va se coucher. Il s'appelle Frédéric et il a 9 ans. Et il dit comme ça, je m'appelle Frédéric et j'ai 9 ans. Et quand je vais me coucher, je pense à l'univers. Tout à l'heure, je pensais à l'univers. Il dit, l'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut être infini.
Comprendre.
C'est Kant aussi. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut être fini, car tout a une fin, tout a un bord, à un endroit, à un autre. Mais si l'univers a une fin, qu'est-ce qu'il y a après l'endroit où il finit? Peut-être rien. Mais rien ne peut être rien tout de même. Je pense tout le temps à l'univers et ça me fait peur. C'est pour ça que j'ai envie d'appeler mon papa. Il faut que je lui pose des questions sur l'univers. Je suis au cours élémentaire. Et je n'aime pas les choses que je n'arrive pas à comprendre. Ça me fait peur. J'ai envie d'appeler mon papa et de lui dire de venir pour qu'on puisse parler de l'univers. Mais il va sûrement me dire qu'il faut que je dorme. Et s'il ne dit pas ça, il va me dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc ça commence comme ça. Et ensuite, il y a cette interaction entre le père et c'est un texte que j'adore, le papa et l'enfant. De 9 ans, il se trouve qu'à l'époque, moi j'avais un petit enfant qui avait 3 ans, qui commençait à parler, à poser des questions. Et en fait, on est souvent démunis en tant que parents. Les enfants vous posent des questions. Non, mais si, bien sûr que si, moi aussi.
Fin du monde.
Mais oui, mais ils vous posent des questions sur la vie, sur les sentiments, sur plein de choses en fait. On peut pas tout savoir, on est spécialiste de... Faut pas non plus essentialiser le scientifique avec un grand L et un grand S.
Autant sur la mort, l'amitié, je sais pas de quel niveau vous êes, mais sur... l'univers, je pense que vous êtes...
Mais il n'y a pas que ça dans la vie, et surtout dans la tête d'un enfant. Et ce qui est intéressant, et ça m'a beaucoup parlé ce texte, parce que en fait, il souligne, le papa n'est pas scientifique, il doit rassurer son enfant. Comment on se rassure dans un monde où on n'est pas capable de tout comprendre? Et donc, ce texte-là, donc, il m'avait été envoyé par Étienne Pomeray, qui est metteur en scène, comédien, et avec qui, en fait, on a monté ce texte au théâtre. C'était ma première aventure sur une scène de théâtre. En fait, il partait de cette envie-là, c'est-à-dire de poser au-delà du savoir scientifique, comment est-ce qu'on fait déjà pour le transmettre? Pour le transmettre sans passer par des technicalités, pour le transmettre sans avoir à mentir sur son contenu, sans le trivialiser, parce que c'est ça qu'on doit faire à un moment ou à un autre. Ce savoir, il n'est pas là pour rester dans des livres, il n'est pas là pour rester dans la tête d'une dizaine de personnes qui sont spécialistes de cette petite chose-là. Ils sont pour le faire comme on le fait aujourd'hui, d'essayer de se créer des images dans la tête des autres et puis de faire savoir commun pour pouvoir continuer à avancer. Et là, ce texte-là, on l'a monté sur scène et puis ensuite, j'avais écrit un petit texte sur est-ce que l'univers est fini ou infini, que je faisais avec un comédien où on montrait des exemples, on essayait de rendre concret les choses. Et je me suis dit, en fait, la littérature, l'art, ont un rôle important à jouer dans cette médiation-là. C'est-à-dire, ce n'est pas de la vulgarisation, ce n'est pas juste « voilà le savoir, je vais vous l'expliquer », c'est juste permettre de se l'approprier et puis que, quelque part, il diffuse. Parce qu'on se rend compte, quand on fait cet exercice, que si on parle de quelque chose, on va trouver des auteurs qui ont eu des intuitions, des poètes, des artistes. Et puis, on a aujourd'hui beaucoup d'artistes qui sont passionnés par ça, qui veulent s'en nourrir parce qu'ils se posent des questions et ils ont cette curiosité. Ce soin pour la nature, c'est intéressant le mot curiosité, la racine c'est caritas, c'est le soin. Donc que j'ai le soin d'un phénomène de la nature en tant que scientifique et que je veuille le décortiquer, l'expliquer, le maîtriser, c'est une chose. Mais je peux avoir ce même soin en tant qu'artiste, de dire, moi, de mon point de vue, voilà comment je le vois. Donc, décentrer le regard, on retombe sur cette idée de savoir situer. C'est-à-dire, l'artiste vous dit pas, voilà le phénomène, il dit, voilà comment je le vois, voilà comment il est important pour moi, voilà comment il change ma vie dans ce monde-là. Et là, à cette époque-là, c'est là où j'ai commencé à travailler avec le théâtre, avec quelques artistes, parce que je me suis dit, c'est une façon de faire, c'est une façon de diffuser ce savoir.
Alors, vous parlez de culture scientifique, mais il y a aussi une dimension presque thérapeutique dans ce que vous racontez de cette pièce de Yon Foss sur cet enfant, parce qu'il y a de l'inquiétude. Comment vous comprenez, vous, et est-ce que c'est ça qui vous a porté à travailler sur l'univers, les inquiétudes qu'on a soit autour de l'infini du monde, soit autour de la fin du monde aujourd'hui, qui va avec cette idée-là? Est-ce que vous aussi, c'est ça qui a porté ce désir de connaissance?
Peut-être pas. Je crois pas. En fait, il y a eu déjà des rencontres et puis une certaine fascination pour la nature en général. Et cette angoisse de fin du monde que je partage avec beaucoup de gens, je pense aussi, c'est pas à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que les étoiles, c'est assez tranquille, on sait quand notre soleil va arrêter de briller. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est plutôt les hommes dans cet univers qui sont beaucoup moins prévisibles et qui parfois, et ça, par rapport à cette époque du 19e siècle, on a parlé du mot de progrès, et donc cette histoire, donc dans l'astronomie populaire, Camille Flammarion finit par le progrès par la science, donc quelque chose dont on pourrait presque douter aujourd'hui. Notre savoir, nos techniques augmentent, est-ce qu'il y a un progrès humain? Qu'est-ce qu'on fait de ce savoir? À quoi est-ce qu'il nous sert concrètement? Et puis, comment se fait-il que sur certains domaines, alors que le savoir scientifique est établi, on reste sourd? On reste sourd, on n'agit pas. En particulier, on parle du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que collectivement, on n'est pas capable d'entendre ce savoir? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour le diffuser, pour le faire comprendre? Et je crois que là, on a une responsabilité, mais elle n'est pas que du côté des scientifiques, c'est vraiment l'ensemble, c'est ce savoir qui doit être mis à disposition et qui doit faire culture pour que, aussi bien les citoyens qui votent, que les gens qui écrivent les lois, que vous, si vous avez une petite entreprise, en fait, vous dirigez votre vie avec le savoir le plus moderne. Donc ça a un lien aussi avec savoir qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles. Et donc pour moi, c'est important, mais ce qui m'angoisse plus, c'est les gens que les étoiles et l'univers.
Que les astres.
Ah oui.
Un gars s'est jeté sous le métro hier matin. Une belle fille s'est ouverte toutes les veines dans son bain. Monsieur X s'est tiré un coup de feu dans la tête. Monsieur Z s'est saoulé pour sa fête. Écoutez partout la chanson. Des usines, des bars, des prisons. Et tout ça ronfle et tout ça gueule comme une monstrueuse meule. Et il y a des gens, évidemment, qui trouvent ça beau, qui trouvent ça vil. Et il y a les villes qui bouffent les gens. Et il y a les gens qui bouffent en ville. Et pendant ce temps, les étoiles, et pendant ce temps, les étoiles s'en foutent éperdument. et les gens naissent, et les gens meurent. Aux étoiles, ça leur est égal. Le bon Dieu ne sait jamais l'heure. Il n'a pas de montre, et c'est normal. Ah, vivement, vivement qu'on meure pour se sentir un peu moins mal. Ah, vivement, vivement qu'on meure pour se sentir un peu normal.
Cette chanson de Pierre Dudon, Les étoiles s'en foutent, pour introduire cette séquence, vous la connaissiez pas, hein,
Jean-Philippe? Non, je la connaissais
mais
pas.
Voilà, notez-la.
Les étoiles s'en foutent.
Cette séquence de fin d'émission, donc après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste. Qui avez-vous choisi?
Alors, je me suis permis de ne pas choisir un auteur, parce que là, j'ai pris un peu la casquette du scientifique et d'un certain nombre de choses qui m'énervent beaucoup et qui me questionnent, et donc en particulier qui vont rentrer en résonance avec ce qu'on avait dit. Donc moi, je dois avouer que j'ai très très peu de sympathie pour un certain nombre d'auteurs. Il y a deux catégories, en fait. Il y a déjà ceux et celles qui vont tordre la réalité, voire nier la réalité pour défendre des thèses et des opinions. Et ça, on l'a vécu, c'est par exemple le négationnisme, on le voit sur le climat, il y a une lutte pour que les faits scientifiques soient reconnus, hein, écouter les scientifiques, comme disait Greta Thunberg aux Nations Unies, et on parle bien de post-vérité. Donc moi, dès que je vois des choses où il y a l'utilisation de on va attaquer la science pour prôner une parole performative qui ne s'intéresse pas au réel, qui ne prend pas en compte l'effet du réel, pour moi, je trouve que c'est très, très grave. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait hérisser les poils. Et alors, je dois les regarder aussi, parce que c'est important de savoir ce qui est écrit.
Oui, mais comment les combattre, justement.
Et comment opposer des arguments. Je pense que c'est pas qu'une question d'argumentaire, ça va beaucoup, c'est beaucoup plus profond. Et puis, de la façon dont le savoir s'est créé, moi, j'ai un grand dégoût, je dois l'avouer, pour les auteurs dont on a la preuve que les écrits sont constellés de plagiat, par exemple. Parce que ça fait partie, pour moi, une remise en cause complètement du mode de production du savoir scientifique, de la méthode scientifique.
Est-ce qu'on peut pas dire justement que c'est un travail collectif et que, on appelle ça plagiat, mais en fait, il faut le nommer, il faut nommer les personnes qu'on cite, qu'on utilise.
C'est
la différence entre le plagiat et le travail collectif, c'est ça ?
C'est pas que le travail collectif, parce qu'on doit établir un savoir. Dans ce savoir, il y a plein de choses, en fait, dans la méthodologie, il doit être reproductible. Vous ne devez pas truquer vos expériences ou vos données. Vous devez sourcer, en fait, tout ce que vous utilisez, et vous devez citer les gens qui ont contribué ou les équipes qui ont contribué. N'en parlons pas pour les textes, c'est la même chose. Donc tout ça, c'est complètement nécessaire. C'est tellement nécessaire qu'en 2022, il y a eu un ajout dans le code de l'éducation, qui demande à chaque personne qui vient de soutenir sa thèse, en fait, de faire un serment sur le fait qu'il va continuer à suivre une déontologie qu'il a suivie pendant sa thèse. Alors, j'ai pris le petit texte, je ne sais pas si je peux le lire, c'est trois lignes.
Allez-y.
Mais je trouve qu'il est intéressant parce que pour vos auditeurs, auditrices, il va vraiment comprendre pourquoi ça engage une certaine responsabilité d'avoir un tel titre. Il dit, parvenu à l'issue de mon doctorat en, ça peut être biologie, physique, chimie, astronomie, et ayant ainsi pratiqué dans ma quête du savoir l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, qu'elle soit dans le secteur ou le domaine d'activité, quel qu'en soit le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.
Eh bien, on s'arrêtera là-dessus. Voilà. Merci Jean-Philippe Uzan. De vous, on peut lire Big Bang, comment l'univers depuis ici et maintenant, et aussi aux éditions Flammarion. Les deux sont aux éditions Flammarion, une histoire populaire de l'univers. Pour lire L'éternité par les astres d'Auguste Blanqui, c'est disponible aux éditions Sens et Tonka.
C'est là.
Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation et aussi à la lecture des textes, à Mineta Djawara à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.